parole du jour avec le Père Willem.
Les béatitudes, chemin d'humanité. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. De l'amour de Dieu, notre amour humain est un reflet et une conséquence. En un mot, nous sommes appelés à faire de la souffrance un chemin de communion. Et nous savons bien que dans la souffrance affleurent et vont jusqu'à s'imposer les questions essentielles pour l'homme. D'où viens-je? Où vais-je? Qui suis-je? Qui sont les autres pour moi? En effet, comme le dit le psalmiste, l'homme dans le bien-être ne comprend pas. Il est tenté de ne pas discerner. Quand nous voyons une personne qui souffre et nous approchons d'elle, les mots nous manquent souvent. Parfois, nous ne pouvons pas nous tenir là. Offrir notre présence, faire notre main dans sa main, un geste d'amitié. Mais cela aussi, bien qu'en silence, est un chemin de communion et donc un chemin salvifique à la mesure de ce que nous pouvons faire sur la terre. Contre la souffrance, nous avons le droit de lutter pour la contenir et la vaincre si possible. Contre la souffrance, il faut résister de toutes les forces dont on dispose. En même temps, toutefois, un autre comportement nous attend aussi, qui n'est pas de reddition, mais de soumission et d'obéissance à notre condition humaine. Nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas immunisés contre la maladie et la douleur. Et cette lutte devient plus efficace et plus chargée de signification si elle est faite ensemble, de sorte qu'on pleure avec ceux qui pleurent, qu'on est à côté de qui est malade, qu'on embrasse qui se sent précipité dans les abîmes infernaux. Personne ne peut résoudre le problème de la souffrance et aucune réponse certaine existe au pourquoi de la souffrance. Mais des chemins de consolation peuvent être parcourus avec les autres et, quoi qu'il en soit, avec Dieu, le consolateur. Autrement dit, il n'y a pas de réponse à la souffrance, aux pleurs, mais il peut y avoir une réponse aux hommes et aux femmes qui souffrent et qui pleurent. Et cette réponse peut provenir des autres, c'est-à-dire de nous, mais aussi de Dieu. Dieu est celui qui nous crie « Consolez, consolez mon peuple, parlez à son cœur » dans Isaïe 40. Il est celui qui envoie son serviteur consoler tous les affligés, Isaïe 61, selon les mots du texte qui a probablement inspiré la béatitude de Matthieu. Il est celui qui envoie le consolateur pour porter la consolation et la joie. Oui, à tous ceux qui pleurent, Dieu promet dans leur souffrance, « Je vous consolerai, puis les rassure, je changerai votre deuil en allégresse, je vous consolerai, je vous réjouirai après vos peines, c'est-à-dire votre souffrance, je la transfigurerai, elle ne sera pas perdue. » Quant à la consolation qu'il nous est possible d'apporter en tant qu'êtres humains, l'attitude de Jésus est tout à fait exemplaire. Dans ses nombreuses rencontres avec ceux qui souffraient, il n'a jamais prêché la résignation. Il n'a jamais manifesté d'attitude fataliste ou doloriste. Il n'a jamais demandé que l'on offre sa souffrance à Dieu. Il n'a jamais affirmé que l'on s'approche de Dieu à la mesure de sa souffrance. Jésus savait bien que c'est l'amour qui sauve et non la souffrance. Pour cette raison, il a pris soin de l'humanité souffrante, de ceux qu'il voyait pleurer en renouvelant une nouvelle fois son offre d'amour. Voilà l'œuvre de consolation exigée de chacun d'entre nous, pour autant qu'il nous est possible, se prodiguer afin qu'il n'y ait plus de larmes qui n'ont pas de consolateur. Cette double œuvre de consolation est admirablement bien résumée dans un passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens qui nous introduit également à une réflexion de type plus ecclésiologique. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3-4. Il est une autre forme de pleurs, toujours présente dans l'expérience des croyants de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, les pleurs de ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en Dieu et en Jésus-Christ, les pleurs de ceux qui sont jetés en prison et qui connaissent la torture et les travaux forcés jusqu'à être tués, acquérant ainsi la qualité de témoin jusqu'au sang, c'est-à-dire de martyr. Or, il faut reconnaître que les pleurs provenant de cette condition sont actuellement peu présents dans nos terres européennes d'ancienne chrétienté, que ce soit parce que l'on n'enregistre pas de véritables persécutions ou parce qu'il n'y a pas parmi les chrétiens eux-mêmes de forte passion pour le Christ. Cette passion qui provoque les larmes lorsqu'on n'est pas compris dans sa foi ou qu'on est raillé, voire méprisé à cause de cette dernière. Mais la béatitude sur ceux qui pleurent concerne également ce type de larmes dont les causes vont de la persécution subie jusqu'aux souffrances liées à l'exil, à l'éloignement du Seigneur, au sens d'un monde qui ne connaît ni ne reconnaît les chrétiens. Jésus avait averti ses disciples, « Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. Ils seront alors dans le deuil, dans les pleurs. Par ailleurs, il leur avait promis, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. » Le croyant authentique, qui est conscient de sa foi, connaît ses larmes dues à l'absence de Jésus, comme Marie de Magdala, face au tombeau vide, cette souffrance due au retard de sa venue dans la gloire et de l'accomplissement de ses promesses.